France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Surpris par la nuit, surpris par le monde. Beyrouth, une ville plus loin, par Anne-Sophie Vergne. Deuxième partie, cette nuit. Beyrouth, fragment de ville. Les architectures, au pluriel, de Beyrouth. Une ville faite de fragments juxtaposés qui trouvent une correspondance dans les voix de ses habitants. Histoire, au pluriel, de la guerre et de la paix.
Surpris par la nuit, Beyrouth, une ville plus loin. Deuxième volet, fragments de ville. Architectures au pluriel de Beyrouth. Vieille demeure libanaise de Jemaïzé ou de Hamra. Immeubles mis à bas par les bombes ou rasés par la reconstruction. Gratte-ciels arrogants en corsin de grue, faits pour un nouveau rêve libanais. Rue modelée à l'ancienne pour exorciser la perte irrémédiable du visage du Beyrouth d'avant-guerre. Cette mosaïque faite de fragments juxtaposés trouve une parfaite correspondance dans les voix de ses habitants. Suivons donc, de voix en voix, d'âge en âge, un parcours beyrouthain. Rassane Salable, où nous trouvons-nous ici ?
On se trouve à Beyrouth, dans cette pointe qu'on appelle Ras Beyrouth, qui veut dire la tête de Beyrouth, dans un café très prisé par ceux qui connaissent, à savoir Raouda Chatila. C'est une des pointes, peut-être même c'est, on est presque à la pointe de cette presqu'île un peu qu'est Beyrouth.
Vous pouvez me décrire un peu l'endroit ?
Le décrire, alors... À ma droite, là, ça fait un peu stérieux ce que je dis, il y a la mer, qui est très très calme aujourd'hui. C'est une mer... Enfin bref, c'est la mer. C'est désespérément calme.
On s'ennuie à Beyrouth ?
Moi non. Hein. Non, je m'ennuie pas, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient. Ou à défaut de s'ennuyer... Bon, par exemple, actuellement, il y a quand même quelque chose... Enfin, actuellement, depuis un petit bout de temps déjà, il y a quand même de vagues... C'est même plus une vague, c'est une mer, véritablement... d'immigration. Il y a beaucoup moins de gens qui reviennent que des gens qui partent actuellement. Infiniment moins. Et en général, les Libanais à l'étranger, on a plus envie qu'ils restent là-bas, parce qu'ils envoient des sous. Je crois qu'ils participent à peu près plus de entre 60 et 65%.
Il y a beaucoup d'avions aussi dans vos films, Rassane Salab.
Bah, nous sommes un peu comme Hong Kong, une ville aéroport. Hein. Je veux dire, on n'est plus vraiment un port depuis la guerre. Et bien qu'on ait un port, bien entendu, mais l'aéroport est littéralement collé à la ville. Quand je vois les avions, même s'ils atterrissent ici, parce que là, c'est un avion qui vient atterrir chez nous, moi, je vois toujours le départ. Je vois des gens qui partent. C'est surtout... Cette ville n'a de cesse pour moi de dire tout le temps « on peut partir ». On a la mer, là, mais pour ceux qui vivent à Beyrouth, ils se rendent compte qu'on a la mer, mais elle est presque décorative. Elle n'est pas comme dans les temps anciens, ce lieu de voyage où l'œil part, il y a l'idée de l'infini. On sait très bien que là derrière, il y a Chypre. On sait très bien qu'à côté, il y a Israël, la Syrie et tout. Donc l'avion, c'est tout le temps ce sentiment qu'on peut partir à tout instant. C'est sûr, hein, quelle que soit l'angle que je prends tout ça... Même si je suis pas né ici, mais j'ai quitté Beyrouth à un moment donné pour soi-disant faire mes études, continuer mes études à Paris. Évidemment, aucun d'entre nous se disait que ça allait durer autant que ça, la guerre. Hein.
Vous êtes parti quand ?
Je suis parti en 75. En fait. Je suis parti, c'est-à-dire au début de la guerre, enfin, quelques mois après. Moi, jamais de ma vie, j'aurais pensé vivre comme j'ai vécu à Paris et tout. C'est sûr que s'il n'y avait pas eu cette guerre, elle n'aurait pas bousculé ma vie comme elle l'a bousculée. Donc, les moments extrêmes font bouger l'être comme aucun autre moment, mais en même temps, peuvent le déprimer comme aucun autre moment, précisément. Mais 17 ans de guerre, c'est un temps de vie énorme. Et c'est un temps où, au bout d'un moment, je pense que beaucoup de Libanais ont vécu, ça y est, c'est ad vitam aeternam, cette guerre. Pourquoi ça cesserait-elle? Et d'ailleurs, elle a plus cessé de guerre lasse, comme on dit. Tout le monde était épuisé qu'autre chose. C'est-à-dire, on a encore pour un très long moment avant de pouvoir se retourner et de voir au plus près tout ce qui s'est passé. Mais malheureusement, on est là où on est, c'est-à-dire au Proche-Orient, j'ai pas envie de faire des généralités, mais on ne parle pas. On ne dit pas les choses. Et moi, en fait, j'ai vraiment découvert Beyrouth pendant la guerre. C'est étrange, hein, parce que Beyrouth était de plus en plus fermé. Je veux dire, c'était cloisonné. Moi, je venais surtout à l'ouest. L'est, j'ai dû la traverser deux fois, trois fois. Je me rappelle très bien, une fois j'ai acheté un plan de Beyrouth, c'était hilarant d'acheter un plan de Beyrouth alors que la ville n'arrêtait pas de se défaire. Je me disais, bon, pendant une semaine, je ne vais être que dans ce quartier. Donc je me levais le matin et j'allais dans ce quartier, marcher dans ce quartier. Et je faisais ça, après je passais à un autre quartier. Évidemment, à première vue, je voyais la destruction. Forcément, ça se détruisait. Mais en même temps, je voyais bien qu'elle était en train de devenir autre. C'est ça que je voyais surtout. Parce que moi, j'ai le privilège d'avoir connu le Beyrouth d'avant la guerre, parce que je suis venu quand même à 12-13 ans, donc j'ai découvert une ville, je ne suis pas né en elle, donc j'avais pas mes premiers repères. Mais évidemment, les repères viennent au bout d'un moment. Et donc, je l'ai vu se transformer. Et bizarrement, je me suis énormément aimé la ville pendant la guerre. Pas parce qu'elle se transformait forcément, peut-être parce que j'avais trouvé des repères, enfin, à moi.
Vous venez ici souvent, Tony Chaka?
Ici à Rauda, oui, oui.
Alors, est-ce que Beyrouth, pour vous, est une ville de l'imaginaire?
J'essaie de comprendre ma relation avec cette ville et c'est toujours une relation très complexe. Quand les combats ont cessé, je me suis dit que je vais partir en Europe parce que c'est plus facile. Je détestais tout, les gens, la ville, tout ça. Et puis, à un certain moment, j'ai découvert la mer, tout simplement. Parce que, vous savez, à Beyrouth Est, on n'a pas accès à la mer. Mais quand je suis venu, il y a une certaine relation que j'ai établie au départ avec la mer et qui m'a poussé à rester ici. Et c'est une relation qui est absolument irrationnelle, qui n'a pas de sens. Même si je l'explique, si je la mets en parole, ça va sortir un peu, peut-être un peu bête, mais c'est comme ça. Le départ était ça. Et c'est la mer, peut-être, qui m'a convaincu que je veux rester ici. C'est une ville qui est très complexe, qui est très brutale, des fois, parce que la réalité est toujours dans votre visage. Il y a très peu de moments où on peut se sentir vraiment seul, ou vraiment dans une situation où pourrait fleurir un peu une certaine utopie. Peut-être une ville comme Paris, peut-être, pourrait soutenir une illusion de bonheur pour des moments peut-être très brefs, mais pour des moments. Alors qu'ici, c'est très différent. On vit dans notre tristesse et c'est bien.
Vous dites une autre chose, Tony Chaka. Vous dites qu'à Beyrouth, il y a une frontière à chaque coin de rue.
Vous ne l'avez pas vu? Cette question de frontière, ça devient, surtout après la guerre, ça devient de plus en plus prononcé et évident. C'est meurtrier, presque. Parce que ce ne sont pas des frontières confessionnelles, voyez-vous. Je ne parle pas de ça. Ça aurait été trop facile, hein, de dire ça. Chaque rue produit un certain, peut-être mode de vie serait trop exagéré, mais chaque ruelle produit un certain, je ne sais je sais pas. Et vous sentez cette quand vous passez d'un endroit à l'autre, vous le sentez. Vous sentez le fait que vous êtes en train de franchir une barrière.
Près d'une photo, d'une vieille photo qui représente deux hommes qui marchent dans l'ancien centre-ville de Beyrouth, dans un de vos livres, vous avez mis une petite annotation et vous disiez que Beyrouth est une ville dont le passé appartient au domaine de l'impensé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des ruptures dans le temps?
Oui.
À chaque coin des rues.
Quand vous m'aviez demandé de parler de la guerre, j'ai dit je refuse de parler de la guerre parce que ce sont des expériences qui ne concernent que moi. C'est pour ne pas, c'est une façon de résister à cette euphorie de la mémoire collective. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qui est dans le passé est dans le passé. Il faudrait peut-être travailler comme les paléontologues. Il faut redécouvrir des ossements de créatures qui ont été mortes. Mais effectivement, le résultat, ce n'est pas un dinosaure. Parce que même si on réussit à reconstruire une squelette, cette reconstruction est toujours fausse, en quelque sorte. La chose qu'on obtient n'est pas nécessairement la chose qui était et qui ne reviendra plus. Je n'ai pas de nostalgie, pas du tout. Et je pense que avoir de la nostalgie maintenant est politiquement néfaste, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas un âge d'or. Tout cet âge d'or est dans un discours qui est faux.
Vous parlez aussi des Béroutins dans vos livres comme de gens qui vivent éternellement dans le présent, qui cherchent justement à oublier, à vivre dans un éternel présent.
Si on fait une certaine lecture politique de cette idéologie, on dirait peut-être que la Seconde République libanaise est surtout une république du vide. On est forcé, on nous force de vivre dans un désert de politique, désert idéologique, un désert qui est absolument vide et qui n'est rempli que par des cris des gens qui sont supposés heureux, mais qui ne sont pas heureux, vraiment.
Pendant la guerre, et à la fin de la guerre officielle, j'avais cette petite ambition de filmer des gens et de leur poser de simples questions à comment vous avez vécu cette guerre. Et j'ai enregistré beaucoup de gens et j'ai arrêté au bout d'un moment. Parce que j'ai compris qu'il était trop tôt et que je me sentais un peu comme... presque comme si c'était un peu pornographique de ma part. Plus que voyeur, quoi. Et puis j'ai surtout compris que c'était tellement violent ce qui s'est passé que le seul moyen qu'ils avaient, les trois quarts, pour ne pas dire tous, c'était de s'en détacher, mais alors violemment. Donc on est toujours dans la violence. Par exemple, je me rappelle d'un copain peintre, parce qu'il habitait pas loin du lieu où était l'ambassade des États-Unis, ou le consulat plutôt, qui a été dynamité, je sais pas, il y a eu une voiture piégée, l'immeuble est carrément s'est effondré, il y a eu des dizaines de morts, évidemment. Comme d'habitude, les trois quarts, c'est des Libanais. Alors je lui dis ça, je lui dis, est-ce que tu étais là au moment même et tout? Il me dit oui, il en parle comme ça, et puis comme ça, au hasard, rapide comme ça, discussion, je comprends que celle qui était sa fiancée est morte, là, dans cette explosion. Mais il ne s'arrête pas là-dessus. Et moi, par pudeur, je ne pouvais pas m'arrêter non plus dessus. Il a poursuivi. Il y a des stigmates profonds, quoi. Et bon, c'est l'humanité, elle est obligée d'oublier. Qu'est-ce qu'elle peut faire? On ne va pas l'emmerder chaque jour. Alors, tu veux te rappeler, Et je me suis rendu compte que je devenais un casse-pied, quoi. Non, je pense qu'on en a encore pour un bon bout de temps. Et j'espère qu'on le fera, parce que c'est très important de le faire. Parce qu'en plus, il y a eu cette horrible amnistie générale pour tous ces enfoirés... Eux, bien entendu, ils restent au pouvoir, alors que certains d'entre eux ont été des chefs de milice, comme Nabih Belghi, qui a quand même plein de sang sur les mains, y compris Walid Jumblat, qui actuellement est un héros, mais lui, au moins, il a eu la dignité de le reconnaître et de le dire très clairement. Il l'a dit très clairement, nous avons tous été des criminels. Mais on a une dynamique étrange. C'est elle qui fait, parce que mine de rien, avec tout ce qu'a subi ce pays, normalement nous on devrait être par terre, complètement par terre. Mais complètement par terre, on devrait être à ramasser, même pas à la petite cuillère, à la pince à épiler. Quoi. On est par terre, mais pas vraiment. Ici, pendant la guerre, les immeubles, si on regarde de près tous les immeubles, pas ceux qui ont jailli après la guerre, bien entendu, mais tous les immeubles, ils ont tous des stigmates. Soit des traces de balles, soit des traces d'obus, soit des traces de replâtrage. Mais pendant la guerre, les gens replâtraient. Parfois, ils n'avaient pas le temps, bien entendu. Mais dès qu'ils avaient un peu le temps, ils le faisaient. Donc, il y avait constamment cet instinct de survie. Il est resté.
Alors, Hassan Salam, moi, je vous propose peut-être qu'on bouge un petit peu. Et puis que vous me fassiez découvrir Beyrouth.
Une partie de Beyrouth.
Une petite partie de Beyrouth.
C'est vrai. Séquence rien que pour le lieu. Et d'ailleurs, moi, quand j'écris un film, je l'écris presque en marchant. Évidemment, je fais des arrêts pour pouvoir écrire les temps d'arrêt. Mais de toute façon, il suffit d'être à Beyrouth pour voir à quel point, malgré tout, malgré qu'elle est en train d'être transformée, de se un peu d'être uniformisée dans sa. On va passer par là. C'est une espèce de mauvais goût qui s'installe au niveau du bâtiment et tout. Malgré tout, ça reste une ville avec plein de recoins. On va traverser.
On va traverser. On va essayer d'éviter les taxis qui s'arrêtent pour nous prendre.
Oui, ici, ils ont une spécialité, les taxis-services ici, c'est que ils hèlent littéralement le client. Pardon. Attention. Essayons de ne pas nous faire écraser quand même. Voilà.
24-4.
Et alors là, on est dans ce qu'on appelle Manara, qui veut dire le phare, quartier du phare. Et cet énorme bâtiment qui n'est quand même pas très beau.
Qui est en construction, là c'est une tour de plusieurs étages.
Il est en construction
étages.
Depuis 3 ans, il était là déjà pendant que je tournais Terra Incognita et j'ai tourné en partie à l'intérieur de... Il y avait cette espèce d'ascenseur extérieur, j'ai tourné là-dedans. Et ils l'ont construit en sorte que ça bouchait le champ du rayon du vieux phare. Alors du coup, le type qui a construit ce bâtiment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé de construire un nouveau phare qui est extrêmement laid, plus bas. C'est assez... Il faut le faire quand même, je veux dire, pour qu'on donne une autorisation au niveau de la hauteur sans se rendre compte que ça allait boucher le vieux phare, c'est quelque chose. Alors on va passer par là.
D'accord.
Attention.
Là aussi il y a pas mal d'arbres, etc. C'est plutôt agréable. Oui, mais qu'est-ce qui vous inspire le plus à Beyrouth?
C'est ce mélimélo. C'est autant ce petit silence très étrange. Et quand on va aller un peu plus loin, ça va être le bordel. Ce bâtiment horrible. Et à côté de lui, des vieilles bâtisses. C'est ce mélange, quoi.
Poser une question, c'est savoir pourquoi tu as appelé tes deux films Terra Incognita et Beyrouth Fantôme. Je pense que dans ces deux films-là, il y a une part de vision, de sensibilité par rapport à Beyrouth.
Parce que je le sens énormément comme ça, que cette ville est fragmentée, que peut-être ça se parle, mais ça ne se parle pas vraiment. Peut-être qu'on entend, mais qu'on n'écoute pas vraiment. Évidemment, là, je suis vivant, je parle, je marche, mais j'ai beaucoup de fantômes en moi-même. Et j'ai bien souvent l'impression... Quand je vois un individu, je ne vois pas un individu, je vois le fantôme de l'individu qui veut me faire prendre pour lui-même. D'ailleurs, lui-même, il ne s'en rend pas compte, quoi. Et je pense que parfois, Beyrouth est comme ça, quand même, pour ne pas dire souvent. Et quand la guerre s'est achevée, elle avait ça, parce que quand la guerre s'est achevée, je me répète officiellement, il y avait à un moment donné, à un seul moment, comme ça, pendant un petit temps, une fatigue, une vraie fatigue. Mais une fatigue et physique, et morale, et tout ce qu'on veut. Donc j'ai senti comme ça cette ville à un moment donné prête un peu comme cette bonne vieille fatigue où on peut enfin se dire bon allez on va réfléchir un coup. Eh ben non, c'est reparti. Et puis bon aussi pour revenir à Fantôme, Beyrouth a sûrement rêvé d'être autre chose. les Beyrouthins, chaque individu. Peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre nous. Et on vit aussi avec le fantôme de ce que ça aurait pu être, Beyrouth. On le voit bien quand Solidaire a été fait, c'est-à-dire le centre-ville. Combien de gens ont rouspété et tout. Combien de gens voyaient eux-mêmes ce qu'allait être leur ville plutôt que ce qu'on leur a donné, quoi. Ça, c'est des fantômes aussi. C'est un travelling, le pare-brise d'une voiture qui traverse le centre-ville en train de se faire construire. C'était en 1997. J'ai voulu rentrer tout de suite le film là-dedans. C'est-à-dire avec une parole que dit la comédienne centrale du film. Elle dit « On voudrait renaître, mais nous ne sommes pas encore morts. Nous sommes juste... on agonise. On n'est pas encore morts. » Et là, on a ce qui a été le Holiday Inn. C'est le quartier, ce qu'on appelle les hôtels. Il y a eu des combats terribles. Et il y a même eu un char à un moment donné. Je ne sais pas comment ils l'ont monté. Je ne sais même pas comment ils ont fait ça. Et à la fin, je crois que c'est l'armée syrienne qui l'a occupé pendant un temps. Bon, maintenant, elle s'est abandonnée. Ça devait être le Beyrouth en expansion sans fin au niveau de son essor financier, de son resplendissant, de sa splendeur. Et évidemment, la guerre a arrêté tout ça. Et celui-ci a eu le temps d'avoir un peu de vie avant que la guerre n'éclate. Mais il y a des bâtiments qui ont commencé et qui sont arrêtés définitivement, dont un qu'on pourra voir tout à l'heure, qui s'appelle la Tour Mor, qui appartient à celui qui a été le ministre de l'Intérieur, son fils l'a suivi. Un gros Richard qui a profité de toutes les situations au Liban pour se faire plein de fric, qui l'avait fait aussi en partie en Afrique, mais enfin, qu'importe. Donc c'est un lieu très symbolique pour ceux qui connaissent Beyrouth, parce que...
On dirait presque une stèle funéraire.
Je ne sais pas, c'est-à-dire, jusque quand on aura encore des stèles pour dire ce qui fut. Voilà. Si vous voulez... On s'arrête ici parce qu'on est à la frontière.
Alors Zico ?
Oui.
On est là dans ta maison, c'est la maison où tu es né, je crois.
Oui, je suis né ici, c'était en 65. C'est une maison de 3 étages, maison de famille, maison traditionnelle libanaise. Hein, et elle date de 1928, c'est Aras Beyrouth, on dit Aras Beyrouth, et Msaïd Bessi, on veut dire aussi, et Sanaïa. Près du jardin Sanaïa, un des premiers jardins à Beyrouth.
Qu'est-ce qu'on voit depuis le balcon? Là, il y a une grande tour.
Il y a l'immeuble de Mur, la tour de Mur, c'est ça. C'est une bâtisse qui a été bâtie et qui n'est jamais servie comme bureau, comme elle devait être. Elle a servi pendant la guerre comme endroit de positionnement. C'est que celui qui prenait Beyrouth, il prenait cette tour, le Beyrouth Ouest. On était le premier quartier devant le quartier de déclenchement de la guerre. Ce que je me rappelle, c'est les petites lance-roquettes qui venaient s'installer au bas du balcon et qui lançaient des roquettes, soi-disant des roquettes, parce que en 75, c'était des rien du tout, mais c'était des roquettes, c'était ça la guerre. Moi, je me rappelle de cette guerre-là que tout ce salon était en verre, le verre était partout, et ma tante commençait à ouvrir des chemins entre les éclats de verre pour qu'on puisse marcher. Après, le son dans tout le quartier, le son de débris de verre, en essayant de les enlever. Tout le quartier avait ce même bruit et on jetait tout. Après, les vitriers commençaient à venir et on refaisait tout. C'était ça.
Et toi, en tant qu'enfant, quels étaient tes sentiments? Est-ce que tu comprenais ce qui se passait? Est-ce que tu savais pourquoi il y avait la guerre? Quelqu'un t'expliquait?
Non, je comprenais très bien. On est une famille qui a compris la politique dès le début. C'était pas quelque chose que c'est les mauvais et c'est les bons. On savait très bien la cause palestinienne, mais quand j'ai décidé d'être dans la guerre, pas fuyant de la guerre. Dans la guerre, il y a beaucoup de façons d'être dans la guerre. C'est être actif, pas passif. Prendre mes responsabilités envers ma ville. J'ai travaillé dans les travaux sociaux, jeunesse, j'ai travaillé dans les écoles et parfois j'ai combattu. Voilà. La première fois, c'était pour découvrir c'est quoi la ligne verte. C'est une. Parce que, si tu vivais à Beyrouth, chaque matin, tu te levais, tu entendais un bruit de bataille. Au loin, c'était à la ligne verte. Toi, dans ton lit, tu entendais que. Des gens se mouvaient. Alors, il y avait une chose mystérieuse pour moi, vraiment, et que je connais des gens qui allaient là-bas et qui revenaient de là-bas. Les histoires de cette ligne verte, qu'est-ce qu'on faisait dans la ligne verte, c'était tout des histoires et des histoires. Et une fois, j'ai dit, ok, pourquoi pas aller là-bas. Et pour aller là-bas, il fallait porter l'arme et aller là-bas avec tout le monde. Et tout le monde faisait ça. C'était une façon de voir, de visiter. On a fait ça et il y avait une.
Vous étiez qui?
Nous étions les communistes, ok. Alors, on est allé à ce front-là. C'était un front, on ne voyait pas l'ennemi, tu comprends? C'était l'ennemi que tu ne vois pas, qui est derrière les barricades, et nous sommes derrière les barricades. C'était ça. Tu tires le matin c'est pour que tu donnes cette ambiance le combat qui continue.
Ziad Alawani, quel âge avez-vous?
Je suis né à Beyrouth en 76, dans un quartier qui s'appelle Ras Naba. C'est un quartier assez urbain, résidentiel. C'est un quartier mixte de religion. C'était le quartier de frontière. Et il y avait des groupuscules qui étaient plus puissants que d'autres, donc qui prenaient les positions avancées. Donc il y avait des changements tout le temps. La période où il y a eu de gros dégâts dans ce quartier, c'était vers la fin de la guerre. Parce qu'il y a eu aussi un grand clash entre les deux Beyrouth, avec les Syriens qui rentraient à Beyrouth Est. Et puis, voilà. Mais sinon, c'est comme toute la frontière, enfin toute la ligne bleue, c'était stable. Ça a été dessiné, puis ça n'a pas bougé durant, je sais pas, 20 ans de guerre. C'est resté la même chose. Donc par rapport à mon statut, par rapport à ça comme enfant, c'est des petits bouts qui se sont accumulés. Puis à un moment, j'ai un peu compris quelque chose. Puis je suis allé demander, j'ai vu d'anciens combattants, des anciens que je connaissais, demander comment ça se passait.
Ça c'est après la guerre ou c'est déjà pendant la guerre hein?
C'est plutôt après, oui. Parce que même avant, si je demandais, même les gens qui participaient n'avaient pas encore aussi cette vision globale aussi des choses. Parce qu'un combattant à l'époque qui avait 18 ou 20 ans, il faisait ça ou bien pour protéger sa famille, ou bien son quartier, ou bien parce qu'il était payé pour, ou par conviction, mais il y en a très peu qui étaient vraiment... il y avait une ambiance, quoi. C'est comme aller... en boîte peut-être, ou c'était l'activité à faire, quoi. Pas pour tous, mais pour certains, c'était le fun, quoi. C'était plus un jeu.
Quelles sont vos premières sensations, vos premiers souvenirs de la guerre?
C'était le jour où ils avaient mis un camion d'explosifs à la base des Français. Et c'était très proche d'où j'habite, parce que c'est le je pense que ça s'est passé au Palais des Pins ou un truc comme ça, qui est pas très loin en fait. C'est dans le quartier du musée qui est très proche. Et c'était proche de Noël. J'étais seul à la maison parce que ma mère avait quitté avec mon frère pour aller au coffre.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 6 ans. Pour me distraire, j'avais construit le sapin. Après, on a eu la visite, enfin ils sont rentrés, on a eu la visite de mes oncles avec leurs enfants. On avait une chambre pour les enfants, puis on jouait aux jeux et tout. Puis à un moment, je sors de la chambre pour aller dans l'autre chambre où il y avait mes parents. Donc il y avait la télé allumée, j'ai vu des dessins animés, j'ai appelé les... Je suis allé tout de suite appeler les autres. Au moment où ils sortaient, il y a eu l'explosion. Et toutes les vitres sont tombées là où ils jouaient. Et donc ça s'est passé vraiment au lieu même où ils étaient assis. Heureusement, ils avaient bougé. Mais moi, je me souviens vraiment du moment parce que j'étais à la limite des deux chambres. Et à ce moment-là, je voyais le sapin que j'ai décoré pendant une heure ou une heure et demie qui tombait comme ça. On avait un chat qui était de taille assez considérable. Et je sais pas comment il s'est écrasé, je voyais s'écraser comme ça et pénétrer sous le canapé. Et c'était vraiment très impressionnant. Et puis dans des grosses explosions comme ça, c'est pas comme les petits combats ou les combats normaux, parce que c'est vraiment grand, ça bouge, hein, c'est comme un tremblement de terre. C'est vraiment comme l'effet d'un tremblement de terre, sauf qu'il y a un son, un grand son avec.
Quand Israël a encerclé Beyrouth, on a travaillé avec les enfants, faire des activités pour les enfants, pour qu'ils rient pendant l'encerclement, et pour qu'ils résistent plus. C'était une très belle période, cette période, il n'y en a pas très belle période, c'est une très grande période, parce qu'on savait qui était notre ennemi.
Après le départ des Israéliens, Zico, qu'est-ce qui s'est passé à Beyrouth ?
Ils ne sont pas partis tout seuls, hein ? Ils ont été chassés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? La ville était une ville avec tous ces milices qui étaient là. Ils essayaient de... Il y en a chacun... Prendre plus et prendre moins, tu comprends, c'était le gâteau. Oui, c'était le gâteau avec tous ces genres de, quand tu veux aggraver la chose, quelques voitures piégées. Les télévisions en France disent voitures piégées. Chaque quelques moments, il fallait faire un coup pour faire voir que la guerre continue. Mais nous, on vivait ici, on faisait même des promenades. On allait à Balbec, on faisait des promenades avec les écoles, avec l'université, il y en a tout. On allait aux universités, on a étudié, on a tout fait. Et c'est ça la belle chose dans les guerres, que dans les guerres tu vis, parce que tu vis, et parfois tu es arrêté de vivre, et parfois tu es arrêté pour toujours.
Ziad Alaouani, vous aviez à peu près 14 ans quand la guerre s'est achevée. Qu'est-ce qui a été possible, par exemple, après la guerre, qui n'était pas possible avant ?
Juste après la guerre. C'était une période d'anarchie où tu as encore les effets de la guerre, c'est-à-dire il n'y a pas encore une autorité, une vraie autorité en place. Pour moi, c'était une période de liberté aussi, parce qu'il y avait beaucoup de télévision. Beaucoup de radio. C'était pas comme maintenant, il n'y avait pas toute la technologie actuelle. Tu as un peu d'argent, tu faisais ta petite antenne, tu émettais de chez toi. C'était le bordel, mais c'était bien, parce que il y avait des gens qui aimaient la musique classique, qui mettaient de la musique classique, d'autres qui mettaient du rock, d'autres machin. Et du coup, c'était quelque chose de super. Et en 95, il y a eu un arrêt total de tout cela. Et qui était un coup dur, assez dur pour moi, à l'époque. Et parallèlement à ça, à l'époque, il y a eu aussi la fameuse loi qui interdisait les regroupements, les manifestations. Et il faut aussi savoir un truc, que pendant ce moment-là, encore, il y avait, même si la guerre elle a daté 20 ans, il y avait encore les restes de... Il y avait des gens encore qui avaient encore de l'espoir. Avec leur engagement, et avec, ils pouvaient encore faire quelque chose. Et puis, il y a eu toute cette structure qui s'est mise en place, qui a bloqué tout ça.
Zico, quelle est pour toi la signification de cette maison? Est-ce que c'est un symbole?
C'est pas un symbole, c'est une maison. C'est vraiment une maison qui travaille autrement. Une maison personnelle d'une autre manière. Je continue à vivre comme je veux. Je vous dis de faire aussi la même chose. C'est que j'essaye que si tout le monde fait ça, on sera dans une très belle vie.
Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette maison maintenant?
C'est la maison de Zico, c'est la Zico House. C'est une maison où il y a des associations. On fait des expositions, on fait du théâtre, on fait tout. On essaye de déclencher des initiatives de cette maison. La guerre a apporté beaucoup de choses. Elle nous a fait découvrir beaucoup de modes de vie. Que tu vives du jour au lendemain et tu vis, tu ne dois pas être trop confortable parce que tu dois changer et tu dois te climatiser directement. Ce que tu aimes ne doit pas être des petites choses. Tu dois aimer des grandes choses. Le grand but est cibler ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime d'une manière rapide. Yani, ne pas beaucoup tarder. Parce que peut-être on n'a pas beaucoup de temps, d'une manière et d'une autre.
Reine Mahfouz, on est dans votre appartement. Dans quel quartier de la ville?
Nous sommes à Achafillé, à peu près. Oui, un peu en bas. Et voilà, j'habite en colocation avec d'autres personnes. C'est un truc assez particulier dans cette ville. C'est pas un truc ordinaire, mais ça commence un peu.
Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et vous avez quel âge d'abord?
J'ai 29 ans, je suis photographe, voilà.
Vous êtes née à Beyrouth?
Oui, je suis née à Beyrouth, à Achafillé aussi.
Vous avez passé la guerre ici ou pas du tout?
Si, tout le temps, j'étais là tout le temps.
Vous vous souvenez un petit peu de ce qui se passait à Beyrouth pendant ce temps-là? Vous étiez jeune?
Oui, j'étais jeune, je suis née juste au début, en 75, donc c'était au départ. Et je me rappelle, sûrement je me rappelle. Je me rappelle de plein de choses. C'est mon enfance, quoi. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont sympas. Même pendant la guerre, il y avait des moments qui étaient bien. Quand il y avait des bombardements et on se retrouvait tous dans l'abri, il y avait sûrement des moments assez sympas de jeux, de rencontres, de bavardage. Et sûrement d'autres moments beaucoup plus durs. Et en parler aussi, c'est différent. Et y penser...
On pourrait aller voir peut-être quelques photos ?
Oui, bien sûr. Voilà, ici c'est un des projets que j'ai fait sur Beyrouth et qui s'intitule « Beyrouth et le temps ». Et finalement, je me suis restreinte sur le centre-ville. J'ai essayé de montrer le temps parce que Beyrouth aussi, c'est des couches de reconstruction, déconstruction, construction, tout ça.
En fait, on ne voit pas du tout les strates archéologiques. On voit un espace urbain vu de haut où il y a des places de parking, simplement. Une silhouette d'homme qui circule dans cet espace totalement vide et abstrait, presque, où il n'y a que des structures, j'allais dire, très géométriques. Ça pourrait ne pas être Beyrouth du tout.
Oui, exactement. C'est déjà, il y a, je pense que c'est pas Beyrouth du tout. Voilà, c'est un truc nouveau.
Alors il y a une autre partie de votre travail aussi. Il se trouve un peu, je crois, dans le salon.
Oui, oui. On peut passer de l'autre côté si vous voulez.
Alors l'arène Mafou, c'est des photos qui pourraient être des photos prises n'importe où. C'est des photos où on voit en fait par exemple des casseroles qui sont en train de sécher, retournées sur un mur en béton, une fenêtre avec des jerrycans, des photos noires et blancs, des plantes simplement sur des escaliers, là à l'intérieur d'une cuisine, un peu pauvre mais qui n'est pas marquée. On ne sait pas où on est. Où est-ce qu'on est là ?
Au fait, on peut être partout, mais nous sommes là dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban. J'ai vécu dans Beyrouth Est et finalement les Palestiniens dans mon éducation étaient des gens, c'était un peu eux aussi la cause de la guerre. Et à un moment donné, j'avais la curiosité d'aller voir dans ces camps, de rencontrer ces réfugiés, de voir c'est quoi l'histoire. Je devais faire un reportage à la fac et je me suis décidée d'aller dans un camp et de faire un reportage là-bas. Et j'étais tout le temps sur mes gardes. Je ne savais pas ce que je disais aux gens que je voulais découvrir, mais aussi je ne savais pas si je devais me dévoiler complètement. Je ne voulais pas m'imposer. Mais c'est venu petit à petit aussi, parce que les gens, quand ils savaient pourquoi j'étais là, parce que j'avais besoin de découvrir comment ils vivent, de découvrir leur cause, de rentrer plus dans la chose, je pense qu'ils m'acceptaient trop facilement et qu'ils étaient prêts à se dévoiler eux-mêmes, à me faire rentrer chez eux. Et puis, je suis passée un jour aussi devant cette cuisine-là, devant la porte de cette cuisine, et là, j'ai eu cette révélation que je voulais juste montrer les détails des vies de ces gens-là. Je voulais pas que tu saches que c'est les camps palestiniens. Je voulais juste montrer quelque chose de très pur, pudique, humain, sans avoir des doigts en V, sans voir d'armes, sans voir des gens dans des manifs. Oui, des plantes sur un escalier, pourquoi pas. C'est aussi ça, c'est la couette tendue au soleil.
Tu veux que je t'en fais ?
Oh yes.
Ça va ?
Yes. I let you make the coffee or you want to speak now ?
No, if you want, I can speak.
All right, okay. So how old are you ?
Quel âge avez-vous ?
I'm 28.
28 ans.
Are you living in Chatila till you born here ?
No, I wasn't born in Chatila.
Je ne suis pas né à Chatila.
I was born in another camp.
Je suis né dans un autre camp.
Destroyed previously during the war.
Qui a été détruit pendant la guerre.
I kept on moving through the camps with my family, of course.
Et je n'ai pas cessé de me déplacer d'un camp à l'autre avec ma famille.
After the invasion of Beyrouth in 1982, we were living.
Jusqu'à l'invasion de Beyrouth en 82.
Later on, we started.
J'habitais le camp de
Bosch-Barzny. Inside Beyrouth, in different areas.
Par la suite, nous sommes déplacés comme émigrants dans différents quartiers de Beyrouth, jusqu'en 90 après les accords de paix qui ont mis fin à la guerre civile. Et nous sommes installés à Beyrouth, nous avons loué une maison et nous y sommes restés. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été bien accepté au Liban en tant que Palestinien, vous et votre famille ? Palestiniens, Libanais, Syriens, tous au Liban partagent les mêmes souffrances dues à la pauvreté,
of sickness, of diseases,
ou à la maladie.
Different things, But in certain other aspects, yes, you can feel to a great extent that there is a difference.
Mais dans d'autres cas, on sent qu'on est traité différemment.
You know, even in the looks, they look at you.
La manière dont on te regarde, par exemple. On te fait sentir que tu es un Palestinien et que tu dois faire attention.
I hate to say this, but for the Lebanese society in general, it has some racism.
J'ai horreur de dire ça, mais en général, la société libanaise est raciste. Voyez comment une famille libanaise ordinaire traite ses domestiques, qu'ils soient Sri Lankais, Philippins ou autres. C'est souvent une sorte de mépris. En tant qu'enfant, quels sont vos souvenirs de la guerre ? Je me rappelle tous les détails de la guerre.
From what I remember in the 1982 during the Israeli invasion, I remember at that time I was around 6 years old.
En 1982, pendant l'invasion israélienne, j'avais 6 ans. Nous habitions rue Hamra.
It was a fancy apartment.
Et nous occupions un appartement plutôt luxueux.
So I remember that my mother used to always keep me at home.
Je me souviens que ma mère me retenait toujours à l'intérieur. Elle ne me laissait pas aller dans la rue parce que les patrouilles israéliennes y circulaient tout le temps. Et pour rien au monde, ils n'auraient toléré un enfant palestinien dans la rue Hamra parce que cela voulait dire qu'il y avait un Palestinien dans un appartement quelque part. Je me souviens d'un incident. J'étais en train de jouer dans la rue avec d'autres garçons quand une patrouille israélienne est passée. Les types nous ont donné des bonbons. Nous étions des gamins et nous étions vraiment contents d'avoir ces bonbons. Quand j'en ai pris un, j'ai regardé vers le balcon de notre appartement et j'ai vu mon père me jeter un tel regard que j'ai compris que c'était la pire chose que j'avais faite de ma vie. Alors j'ai lancé les bonbons vers les Israéliens. Les Israéliens ont commencé à crier « Mohaleb, Mohaleb », ça veut dire « saboteur »,« terroriste ». Et les autres gamins ont fini par faire comme moi et ont jeté leurs bonbons. Alors nous nous sommes mis à courir avec les Israéliens à nos trousses, comme si on avait commis un acte terrible. Mais nous avons réussi à nous enfuir, heureusement. Je me rappelle aussi qu'une fois, ils sont venus chercher les enfants palestiniens à l'école. Nous étions une douzaine environ. Ils nous ont enlevés. Ils nous ont d'abord battus, puis ils nous ont tous enfermés dans une petite pièce obscure. Plus tard, il y a eu des coups de feu et des gens nous ont sortis de là. À partir de ce moment, j'ai commencé à avoir la conscience de ce que cela veut dire d'être palestinien. J'ai senti que les Libanais, qui étaient contre nous, essayaient de nous cantonner dans un quartier afin que nous ne puissions aller nulle part ni faire quoi que ce soit jusqu'au moment où nous partirions. C'est dommage qu'un enfant en vienne à penser de cette façon dans un pays où il est obligé de vivre. Car mon sentiment, c'est que je suis obligé de vivre au Liban. Je ne pense pas que c'est une sorte de privilège pour moi de vivre au Liban. Ceci dit, j'aime le Liban. Ma mère est libanaise et je me considère aussi comme un Libanais. Je suis un Palestinien libanais. Mais en même temps, j'ai le sentiment que je suis obligé de vivre ici. Et je sens que certains Libanais sont obligés de m'accepter ici. Et je n'aime pas vraiment me trouver dans cette situation. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager politiquement ? Ça a été la première intifada. De mon point de vue, être palestinien, ça signifie qu'on est politisé depuis sa naissance. Vous savez, on commence à faire de la politique aussitôt que nous commençons à boire le lait de nos mères. Quel parti avez-vous choisi à ce moment ? J'ai choisi directement le FPLP. Pour revenir au camp de Shatila, quelles sont les pires difficultés que les gens doivent affronter ici, dans leur vie quotidienne ? D'abord, vous avez un problème politique, par exemple, le problème des droits civiques. Les Palestiniens sont privés de droits civiques parce que le gouvernement libanais veut, soi-disant, que nous n'oublions pas notre droit au retour.
Bon.
Cela cause un autre problème. Cela empêche les Palestiniens d'occuper certains emplois au Liban. Empêcher les Palestiniens de travailler parce qu'ils sont des étrangers, d'accord, je peux comprendre. Mais je reviens à la politique. Que dire des 700 000 travailleurs étrangers qui sont ici au Liban? Ils peuvent travailler et nous pas. Ils peuvent emporter de l'argent qu'ils gagnent à l'extérieur du Liban pour construire leur maison, aider l'économie de leur pays. Et nous, nous vivons au Liban, nous travaillons et nous sommes nés ici, mais nous n'avons pas les droits qu'ils ont. Alors, pourquoi restez-vous ici? Comment répondre à cette question? Honnêtement, à chaque fois que je pense à ce que serait ma vie hors du Liban, j'imagine toujours qu'elle serait définitivement meilleure. Mais je sens aussi que rester ici, c'est la meilleure aide que je puisse apporter à ma famille. J'ai une deuxième raison. J'ai élaboré une sorte de théorie. Tous les gens qui ont eu des moments difficiles à cause des réfugiés palestiniens, spécialement ici au Liban, essaie de faire pression sur les Palestiniens au Liban afin de les pousser à émigrer, à obtenir un passeport ou une nationalité différente. Tout ça pour pouvoir leur dire à la fin, maintenant vous n'êtes plus Palestinien, vous n'avez plus de droit en Palestine, vous pouvez venir en visite, mais vous ne pouvez pas rester ou vous installer en Palestine. Ces gens veulent chasser des camps palestiniens les jeunes générations pour pouvoir plus tard détruire les camps, construire des immeubles de luxe à leur place et faire disparaître toute l'histoire de ces camps, ce qu'ils ont subi. Ce que je veux dire à ces jeunes, c'est de rester ici parce que je reste ici. Je ne pourrais pas leur dire de rester quand moi je me permettrais d'émigrer et de mener une vie agréable en Suisse, en Finlande, ou je ne sais où. Et une autre chose, c'est que je me sens ici plus proche de la Palestine, de mon père et de ce que la Palestine signifie à mes yeux. Je ne me sentirais pas un Palestinien en Amérique, par exemple.
Grégoire Serov, nous sommes dans quel quartier de Beyrouth ici?
Nous sommes à Ras Beyrouth. Ras Beyrouth, ça veut dire la tête de Beyrouth. En fait, Ras veut dire cap en arabe. Voilà. Nous sommes sur le cap de la péninsule Beyrouth.
Et cette maison ici, vous y habitez depuis combien de temps? Vous pourriez me la décrire d'abord?
Oui, je peux vous la décrire. C'est une maison libanaise, ancienne. En fait, je crois qu'elle date des années... Je pense qu'elle a été construite en 1900, peut-être plus tôt, 1890. Et elle est un exemple classique avec nuance. Parce que, bon, elle n'est pas orientée comme le sont les vraies maisons libanaises à trois arcades. D'ailleurs, les trois arcades sont orientées à l'ouest au lieu du nord.
Grégoire Serov, on vous a présenté comme la mémoire de Beyrouth.
La mémoire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis dans cette maison depuis 1940. Ça fait mémoire, ça? Ça fait mémoire. D'accord. Alors, évidemment, j'ai vu l'évolution rapide de Beyrouth, qui a coïncidé un peu avec, disons, l'indépendance, et puis... l'instabilité des pays arabes limitrophes. Voilà. Alors, il y a eu un apport de population et premières années de liberté, en fin de compte, liberté d'après le mandat. Alors, la richesse des Libanais, c'était les terrains. On vendait des terrains, on construisait beaucoup à cette époque. Et donc, on peut dire que les années, disons, de 45 à 55, à 65, ça a été le boom véritable.
J'aimerais vous poser une question concernant le fameux âge d'or de Beyrouth. Est-ce qu'il a existé? Est-ce que vous pourriez me donner des souvenirs du centre-ville avant qu'il ne soit détruit?
Oui, si vous voulez. L'âge d'or, bon, c'est vrai qu'il y avait la vie. Mais de là à dire que c'était une vie de qualité, c'était quand même la vie d'une ville assez pauvre. Beyrouth, le centre, se caractérisait par rapport aux autres régions du pays, c'est que tout le monde y venait. De là à dire qu'il était propre et net, c'était pas une belle ville, disons. C'était une ville que tout le monde la mystifie à cause vraiment des souvenirs qu'ils ont eus, qui sont des souvenirs de la jeunesse. Et bon, Beyrouth est une ville d'ouverture. Et puis, il y avait pas mal d'étrangers, de colonies étrangères.
Hassan Daoud, est-ce que vous pourriez nous décrire le lieu où nous nous trouvons maintenant ?
Le jardin a été construit en 1850.
C'était à l'époque des Ottomans et ils avaient fait ça à côté d'une cour de justice en bas. Ils l'ont appelé Sanaïa.
Moi,
j'ai grandi dans une bâtisse qui était juste en face et le jardin est resté le même depuis l'époque. C'était un endroit très particulier, un lieu résidentiel très particulier à Beyrouth.
والناس اللي ينزلوا بالسكن هون هن ناس من طوائف ومن جنسيات ومن أوطان مختلفة.
Et les gens qui habitaient ces lieux-là étaient de communautés diverses. On avait dans l'immeuble, par exemple, des voisins russes, des voisins français, des arméniens. La bâtisse que nous habitions, il y avait un mélange de communautés, de nationalités, mais notre famille n'appartenait pas à la bourgeoisie.
Hassan Daoud, vous avez vraiment la nostalgie de cette maison et de l'époque peut-être qui s'y rattache.
Je
suis malade de cette époque. J'ai une tendresse folle pour cette époque. Ma tante a habité l'appartement 10 ans après que nous soyons partis. Je venais lui rendre visite, pas pour la voir, mais pour voir la maison. Je continue d'en rêver, je le vois tous les soirs dans mes rêves et je me revois même l'habitant.
Hassan Daoud, vous avez fait aussi le lieu d'un roman. Cet immeuble de Mathilde, qui est le titre du roman que vous avez écrit à partir de vos souvenirs d'enfance, de l'immeuble où vous avez grandi, c'est peut-être aussi une image du Liban.
Au
troisième étage de l'immeuble, ce que moi j'ai appelé le milieu de l'immeuble, la moitié de l'immeuble.
Madame Mathilde.
Il y avait une Madame Mathilde qui habitait là.
Et avant
la guerre, c'était celle qui s'opposait le plus au changement, à ce que l'immeuble soit habité par des gens plus pauvres. Elle détestait notre présence dans l'immeuble d'ailleurs.
Parce que quand tu tires Mara,
c'est une femme qui se prenait pas, qui se prenait pour une dame de la très haute
bourgeoisie.
Et durant la guerre, elle a été forcée de permettre à une personne très pauvre d'habiter avec elle dans la maison.
Il
lui payait de l'argent, évidemment.
Et
Alors cet homme-là l'a tué, il l'a découpé en tout petits morceaux et a distribué les morceaux à travers Beyrouth. C'était une grosse affaire en 1979 au Liban. Alors l'homme qui l'a tué était légèrement arriéré mental. A été pendu ici, au milieu du jardin.
Et c'était le premier اعدام civil.
C'était la première condamnation civile après la guerre.
Hassan Daoud, si Beyrouth était une femme, comment la décririez-vous ?
Mystérieuse, inquiète, instable. Et je ne sais pas si je l'aurais aimé.
Voilà.
Je peux vous dire que je la faisais des centaines de fois, cette traversée de la ville de Beyrouth.
Racontez-la-moi.
La traversée,
oui.
Eh bien, on prenait le tram qui était ici, ça c'était un des terminus, là, ça s'appelait terminus phare. Et la ligne numéro 1, qui vous prenait du phare à l'autre extrémité de Beyrouth, qui était le quartier de Fournesheba, qui s'appelait, disons, route de Damas. Alors la ligne numéro 1 s'appelait Damas-Phare. C'était la plus chic des trois lignes, il y avait trois lignes. On montait pour 10 piastres, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça ne signifie rien aujourd'hui, 10 piastres. Et on allait d'un bout à l'autre de la ville, aller et retour. Le principal plaisir, c'est de se mettre à côté du Watman, parce que c'était ouvert, n'est-ce pas? On sentait la brise et on voyait la ville d'un bout à l'autre. En partant d'ici, bon, on est dans le quartier de l'Université américaine. Le tram faisait quelques méandres autour de l'Université américaine. Puis il y avait une belle descente et c'était la station Dick. La station Dick, ça s'appelait la station du coq. Bon, historiquement, il paraît qu'il y avait une épicerie avec un coq en permanence là-bas. Bon, alors ça s'appelait station Dick. Puis on montait, et le tram commençait à remonter, toujours en direction de l'est, hein, parce que nous habitons ouest, et en direction de l'est, vers le centre de la ville. Il y avait la station Jumblat, où il y avait un très beau palais, qui est toujours à l'ancienne. Et puis on commençait à aller vraiment vers le centre. Il y avait Bab Edriss, qui était un carrefour. Tous les gens bien se rencontraient parce qu'il y avait une librairie avec les dernières revues. Il y avait la pâtisserie suisse, et tout à fait en face de la cathédrale Saint-Louis des Capucins. Alors, les gens bien allaient à la messe et puis se retrouvaient à la pâtisserie suisse. Puis il y avait un restaurant qui s'appelait Massoud. Alors là, je me rappelle qu'il donnait des... Vraiment, c'était un restaurant à la française, comme si vous étiez chez Lippe, hein, avec le tablier jusqu'au sol. Et la cuisine impeccable à la française. Bien sûr, tout de suite après, c'était les souks. Il y avait deux ou trois souks, disons, très propres et nets. C'était le souk de l'habillement. Et à droite, il y avait les souks nourris. Alors celui-là, c'est pas qu'il était mal famé, mais il était pas propre. Hein. On abattait le bétail sur place et on mélangeait bonbons, poissons, fromage, tout ce que vous voulez, chaussures. Il y avait toutes les odeurs. Et alors on aboutissait comme ça sur la place des Canons, la fameuse place des Martyrs. Au début, elle avait un joli petit sérail qui a été démoli. C'était un petit bâtiment ottoman. Puis il y avait le jardin central. Si on recule bien avant, il y avait une fontaine et des kiosques à musique. Pareil que les Ottomans étaient friands de kiosques à musique plus que les Autrichiens. J'arrive pas à le croire, mais c'était le carrefour de tous les taxis pour aller à la montagne. Et il y avait un monument qui était tout à fait discret, qu'on avait enlevé pour le remplacer avec un autre beaucoup plus pompeux, qu'ils sont en train de remettre en place ces jours-ci. Alors le petit monument discret de la place des martyrs signifiait martyr, c'est-à-dire ça représentait deux femmes en train de se consoler d'avoir perdu des proches pendant les pendaisons qui se sont produites en 1914 ou 16, ou je ne sais plus quand, du temps des Ottomans. Ce sont des martyrs de la domination ottomane. Puis alors en remontant vers le sud, le tram, toujours dans mon tram, on voyait les cinémas. Alors là, il y avait pas mal de cinémas. Il y avait un cinéma extrêmement ancien, Cristal. Un autre qui était Roxy, Empire, Rialto. Des cinémas qui donnaient beaucoup de films. Un peu plus haut, il y avait un cinéma qui se spécialisait en films français. Le Gaumont Palace. Il n'y avait que des films français. Et films russes, à un moment donné. Beaucoup de films russes. Bon, à l'angle de la place des Canons, à l'endroit même où se fait la gigantesque, la monumentale mosquée, il y avait un endroit très caractéristique de la place des Canons qui s'appelait le café des vitres, à l'hôtel Zez. Il y en a aussi du même genre. C'était des cafés pour hommes. Donc, café, vraiment, café, thé et jeu de tric-trac. Cela a été démoli complètement. Et puis, il y avait aussi un théâtre, un petit théâtre populaire. Les acteurs reprenaient la vie quotidienne et ils en faisaient tout un... Les gens... C'était un théâtre des 10 heures, carrément. Mais libanais. Beaucoup d'humour, formidable. Bon, ensuite, on était... Bien sûr, le tram se déplace vers le sud et il commence à remonter. C'était la ligne de démarcation, la route du tram Damas-Far. Le Sodeco était le lycée français. Puis on arrivait à Fourneshebak, qui veut dire... Le four de la fenêtre. Traditionnellement, on raconte que le tram faisait la petite boucle et il y avait un four qui vendait son pain par une fenêtre. Alors, Fourneshebak. Alors, c. Watman prenait un plat de hummus dans un sens, il le mangeait en route et il ramenait le plat vide. Au retour, c'était comme ça, leur habitude. Bon, voici la ligne d'Amasfar.
Là, Bernard Roury, les travaux ont commencé?
Oui.
On voit les fondations?
Ce que vous voyez là, c'est les restes d'un chantier qui avait démarré en 1994 ou 1995. Et là, donc, devait se situer l'immeuble du ministère des Finances. Le contrat a été rompu, je crois, dans les années 1995-1996. Et donc, on se retrouve avec une ruine... ce qui reste en fait du bâtiment du centre commercial qui a été construit dans les années 60. Le projet a été un peu avorté par la guerre. Ce qui fait que notre projet se situe en fait dans une période d'après-guerre où la zone n'est pas encore saturée, cette zone ne s'est pas encore totalement développée. Il y a d'autres quartiers du centre-ville qui sont en train d'être développés. Donc dans ce moment en fait, dans ce vide, nous voulons insérer un projet temporaire. Là, nous sommes dans le théâtre qui a été construit au-dessus du sol. Et c'est assez intéressant parce qu'on a une forme assez organique, très années 60 en fait, mais très très bien construite aussi, mais gravement endommagée. Donc on va conserver en fait cette espèce de bulle dans laquelle nous sommes.
On dirait une espèce de champignon vu de l'extérieur, ça a été très endommagé par la guerre.
On l'appelle la patate, également. On l'appelle la bulle, on l'appelle toutes sortes de noms. Et là, en principe, ce sera un théâtre et une salle polyvalente, environ 600 places. Ça suscite énormément de curiosité. Et je crois que le propriétaire, donc la Société Solidaire, est devenue consciente de l'impact en fait de ce site, de son importance, et s'est rendu compte que pendant ces années, ces 7-8 ans à venir, durant lesquels on ne pense pas pouvoir vendre cette parcelle, il serait intéressant de faire quelque chose qui donnerait aussi un autre visage au centre-ville. On ne construit plus des choses comme ça de nos jours, donc je crois que ce serait dommage de venir effacer tout ça comme ça. Et cette notion de récupérer des bâtiments est une chose qui m'intéresse depuis un bon bout de temps. À mon avis, c'est comme ça qu'une ville se construit, c'est par itération, c'est par petits rajouts.
Cet endroit a-t-il eu une valeur stratégique pendant la guerre en plus?
On est en fait on est dans le centre du No Man's Land. là où la ligne de démarcation devenait en fait une tranche de la ville. Un peu plus loin vers le haut, la ligne de démarcation devenait beaucoup plus étroite. Mais là, on était donc en plein champ de bataille. Mais à partir de 76, c'était carrément en plein centre du No Man's Land, donc ce qui explique l'état des lieux. Il est clair qu'on ne peut pas, totalement faire abstraction de ce qui a mené ce bâtiment à être ce qu'il est aujourd'hui, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va en faire aujourd'hui. Donc ce n'est ni un passé romantico-carte postale, ni un avenir hypothétique non plus. Ce qui m'inquiète par contre, c'est cette tendance à vouloir simplifier très souvent, et ça a été en fait la tendance des grands projets, pour ne nommer personne, cette tendance à vouloir simplifier Beyrouth, simplifier ces situations qui parfois sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus complexes, en essayant de resimuler une sorte de passé qui est une invention à mes yeux. Je ne connais pas ce Beyrouth, cette soi-disant Suisse du Moyen-Orient. Cette notion ne m'intéresse pas. Je crois qu'elle n'intéresse plus personne. Et, ou alors c'est une espèce de futur hypothétique, un projet moderne très stérile qui ne m'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresse en architecture, c'est notre potentiel de pouvoir parfois réinterpréter une situation et la reformuler d'une manière pertinente. Donc il n'y a pas que la guerre.
Ziad Marroul, vous trouvez que les Libanais parlent beaucoup trop de la guerre du Liban ?
Mais c'est pas surtout les Libanais qui parlent de la guerre du Liban, c'est tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au Liban qui ressentent un besoin que je ne comprends toujours pas de remuer, de recommencer à ressusciter des images, des odeurs, des bruits qui je sais pas, qui ont une espèce d'envie d'analyser cette guerre. C'est évident qu'un travail de mémoire est indispensable, mais j'aimerais par exemple que les cinéastes libanais fassent des films sur autre chose que sur la guerre du Liban ou sur la guerre en général. J'aimerais que surtout que qu'il y a tellement de choses à construire, de choses à faire, que retourner vers un passé et le remuer, le sarcler comme ça indéfiniment, ça, à mon avis, il y a autre chose à faire maintenant. Ça fait 15 ans que la guerre est finie. La guerre, j'entends les bombes, les abris, les morts, les voitures piégées, et encore. Mais c'est vrai que politiquement, la guerre n'est pas terminée, mais ça, c'est autre chose.
Vous êtes parti pendant 10 ans. Vous êtes revenu dans les années 2000, si j'ai bien compris.
Pendant très longtemps, j'ai dit que pourquoi j'allais donner à un pays qui ne me donne rien, où le premier geste était de prendre mon sac à dos avec livre, baladeur, et petites bouteilles d'eau et paquets de biscuits pour courir aux abris. Je veux dire, c'était... Et puis je me suis rendu compte que finalement, si j'attends, j'aurai rien. Donc, soit je provoque pour avoir, soit je désespère et je reste ailleurs. Et ça demande pas vraiment de courage, ça demande simplement... Ce qui est valable pour moi est valable pour des centaines de milliers de jeunes de mon âge à l'époque. On part trop facilement, j'ai 32 ans, on part trop facilement, on revient pas facilement. Et j'aimerais juste qu'il y ait une espèce de structure, si c'est impossible d'avoir au niveau de l'État, qu'on l'ait ailleurs, pour faire en sorte d'arrêter un peu l'hémorragie et de ramener... le muscle du Liban, c'est-à-dire sa jeunesse, de le ramener ici. Les Libanais veulent que les choses bougent, oui, certainement, ils le veulent. Mais moi, j'ai pas envie que cette volonté devienne une velléité. J'ai envie que cette volonté s'incarne, qu'elle se concrétise. À un moment, ça ne peut venir que de nous. Donc, ça veut pas dire qu'il faut aller dans la désobéissance civile ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement une question de mentalité, de façon de réagir, qui doit changer, qui doit de ne plus faire de concessions avec un pouvoir qui est imposé, de ne plus faire de concessions avec soi-même, de ne plus faire de compromissions non plus.
Ziad Marroul, si vous n'avez pas envie de faire la révolution, est-ce que vous proposez par exemple quelque chose comme la création d'un parti ?
Oui, ça serait pas une mauvaise idée. Même deux parties. Un parti, non, ce serait tout ce qui est mono, non. Mais oui, un parti, deux parties qui seraient complètement... qui n'auraient aucune couleur confessionnelle ou géographique ou avec une ligne politique claire, avec un programme. Moi, je rêve d'une vie politique, d'une praxis politique, d'une chose publique qui soit un peu... pas calqué, certainement pas, mais inspiré d'un modèle que je connais bien et qui me plaît malgré tous ses vices et toutes ses perversions qu'est le modèle français. Pas du modèle politique, évidemment. Oui, bien sûr.
Vous savez qu'en Occident, on reçoit pas mal d'images du Liban en ce moment. Et en fait, une des choses qu'on voit, par exemple, c'est ce bar de Bernard Houry, le B018, qui existe depuis très longtemps maintenant, Ziad Marol, dans lequel, en fait, les jeunes se retrouvent et mangent sur des cercueils, etc., avec un toit qui s'ouvre sur le ciel, c'est un ancien abri. Qu'est-ce que vous pensez de cette imagerie aussi qui est exportée, j'allais dire, du Liban, vers l'Occident ?
Beaucoup de choses, mais réduire le Liban au B018, je sais que c'est pas de votre faute. C'est comme cet été, le nombre de magazines féminins qui se sont tous jetés sur le même sujet, les plages, avec les plages où les monokinis et les bikinis font à peine 2 mm, et les plages réservées aux femmes musulmanes où on se baigne tout habillé, tout voilé. Il y a autre chose au Liban, il y a vraiment autre chose. D'un autre côté, j'en veux pas du tout aux Occidentaux, j'en veux à comme je m'en serais voulu à moi-même, aux journalistes, quels qu'ils soient, quel que soit leur support, de pas aller voir ailleurs. Mais le B018, ouais, c'est une belle image, c'est une très belle image, parce que cette image d'un bar, d'une boîte de nuit complètement décalée et où on se moque de la mort et où, ouais, non, c'est très bien.
Comment vous appelez-vous ?
Okay, je suis 19 ans. Je travaille ici depuis un mois.
Et vous appelez comment ?
Sorry ?
Votre nom ?
Ah, Serge Tawil.
Très bien. Alors, quelle est la musique qu'on entend ici ?
Okay, on entend une musique, le début de la guerre, en 1975. C'était, si vous entendez maintenant, c'est Fayrouz. Elle est très connue ici au Liban. On a aussi les Rahebne. Rahebne, ils sont des fabuleux hommes en musique libanaise. C'est notre style de musique. Non, à peu près près de la guerre.
Alors maintenant, j'aimerais que vous me décriviez cet endroit qui est un bar.
Ok. Dans notre bar, on met des fusils sur les escaliers. On a des inscriptions sur les murs. Avec des boîtes de fusils, on met dans eux les bouteilles de vodka ou les bouteilles de whisky. Il y a ici les mines, attention les mines, et la liberté. Et une inscription libanaise était ici, Marra Menhuna, c'est en français, passer d'ici, quelqu'un qui est passé d'ici. Et il y a là-bas un homme qui escalade et il est mort sur le...
Il y a des sacs de sable partout. C'est vraiment un décor très militaire.
Oui, c'est un décor militaire. C'était une idée de notre manager. On avait une idée. Il y avait ici un autre pub, mais on voulait quelque chose de nouveau à Mono. C'est bon, d'avoir des souvenirs sur la guerre. Pas être nerveux sur la guerre, mais s'apprendre de ne pas faire les mêmes fautes.
D'accord. Donc ce bar s'appelle 1975.
Le début de la guerre au Liban.
Et vous êtes habillé, vous, le serveur, de
oui.
quelle manière?
Militaire. Habillé militaire. Full. Seulement, on a besoin des armes.
Est-ce que vous trouvez que c'est un peu provocateur, ce bar 1975, pour tous les gens qui ont vécu la guerre ou pas du tout?
Il y a des personnes qui voient ça exagérant. Non, quelqu'un qui est mort pour lui dans la guerre, mais on n'a pas cette idée de guerre, non, de refaire la violence ici. Non, c'est seulement de... Il ne faut pas oublier, pour ne pas faire les mêmes fautes. Non seulement, c'est une idée. Non. Les personnes viennent, s'assoient, on boit, ils sont contents. Non.
Est-ce qu'il y a une nostalgie de votre part par rapport à la guerre? Vous êtes jeune, vous ne l'avez pas vraiment connu?
Non, je ne l'ai pas vraiment connu, mais je sais beaucoup des histoires de mes parents. Non, je ne sais pas. Moi, j'aime cette place. J'aime les idées militaires. Et tous les jeunes ici, c'est la plupart de ceux qui viennent ici sont des jeunes. Ils ne sont presque rien de la guerre. Mais ils aiment. Et les grands qui viennent ici n'ont aucun problème. Eh bien, ils boivent.
Donc c'est plutôt l'attachement à une culture du passé?
Oui. Attachement aux cultures du passé. Pour la principale idée ici, c'est de ne pas oublier. De ne pas oublier les fautes qu'on a faites. C'est bon.
Où étiez-vous à Beyrouth pendant la guerre?
Je suis née pendant le mois de l'invasion israélienne et mes parents m'ont emmenée en Arabie Saoudite 2 mois après. Je suis restée là-bas, disons 6 ans, j'ai vécu là-bas. Ensuite, il y a eu la guerre avec le général Aoun. Et je suis rentrée, j'étais au Liban.
Dans quel quartier habitez-vous alors? Vous vous souvenez de la maison où vous étiez?
J'étais à la montagne, dans un petit coin. Il y avait à ma gauche les Syriens, à ma droite la milice du général Aoun. Ce qui fait que je montais sur le toit de la maison pour voir les bombardements et ce qui se passait. En fait, tout passait par-dessus ma maison. Donc c'était assez intense. Visuellement, c'était assez esthétique de voir ce qui passait, les couleurs, les lumières qui passaient au-dessus de ma tête, mais... Quand en plein milieu de la nuit, il y avait des bombardements, on venait nous prendre pour nous descendre aux abris. Parce que c'était assez gênant et c'était pas agréable du tout. On était chez des amis à Pamdoun, qui est un village à côté de Halay. Et c'était en fait au début de la guerre. Il y avait ma grand-mère là-bas. Très jeune, et c'était la première fois, le premier événement en fait de bombardement que je vivais, que je voyais et que j'entendais, parce que ma grand-mère se cachait sous le lavabo de l'évier de la cuisine et elle pleurait. Et moi j'étais tout petit, je regardais comme ça et je comprenais pas ce qui se passait avec les bombardements. Ma grand-mère qui pleurait, c'était assez émouvant.
Quel est votre premier, enfin, quel est un souvenir marquant de cette période-là pour vous?
Non, il n'y a pas de chose, mais il y a des histoires sur la guerre, En réalité, il n'y a pas vraiment de fait marquant à part avant la guerre avec le général Aung, il y a la guerre avant. En fait, les miliciens entraient dans les immeubles et tous les habitants montaient sur le toit pour se cacher, pour s'enfuir. Et les miliciens arrivaient, tuaient toutes les personnes sur le toit et les petits-enfants, ils les jetaient en l'air et les fusillaient. Donc c'est surtout ça qui est assez marquant.
C'est ce qu'on vous racontait, vous ne l'avez pas vu vous-même.
Oui, exactement, c'est ce qui est...
Quand avez-vous compris que la guerre était finie ?
En fait, j'ai compris qu'il y avait eu la guerre déjà. C'est quand je suis descendue à la place de Salim Soler et que j'avais vu une manifestation et que j'ai vu toutes les habitations détruites, tous les immeubles détruits. Là, j'ai compris qu'il y a eu la guerre. Et j'ai compris aussi que la guerre était terminée. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me demande si la guerre est vraiment terminée, parce que quand je me balade dans la rue ou que je rencontre des gens, je sais qu'ils parlent encore de religion. On sent une certaine haine, un certain racisme, donc je me demande si la guerre est encore terminée.
Est-ce que vous pensez que votre génération a une identité un peu commune ?
Il y a une identité commune dans le sens où il y a un grand, pas désespoir, mais disons une soumission, comme une sorte de dépression, mais un peu active, parce qu'on sait qu'on veut tous partir. Parce qu'on n'a plus grand-chose ici, c'est comme si on avait perdu nos repères. Et quand on se hait, déjà, on ne peut pas aimer l'autre. Donc c'est un peu ce qui se passe dans notre génération en ce moment. Si une famille n'arrive pas à survivre financièrement parlant, qu'elle n'arrive pas à mettre ses enfants à l'école, qu'elle n'arrive pas à manger, qu'elle n'arrive pas à s'habiller, qu'elle n'arrive pas à sortir, on ne peut plus aimer le pays où on vit, on ne peut plus aimer la vie, donc on ne peut plus aimer l'autre, on ne peut plus rien aimer. Donc ça donne cette envie de, pas de suicide, mais disons de soumission totale et de bon.
Vous savez, la première chose que je sens une solitude et un isolement absolu. Une solitude que je n'essaie même pas d'en sortir parce que, enfin, il fait bon y être, hein, parfois. Parfois, je sens le malaise, un certain malaise qui caractérise ma génération. Nous sommes dans un pays qui est entouré par deux voisins impérialistes, entre guillemets. Israël et la Syrie possèdent tous les deux des projets politiques qui vont au-delà de leurs frontières. Et les Syriens sont là, les Israéliens disent qu'ils ont quitté, il y a toujours cette partie contestée et tout ça. Ils se font la guerre ici. Donc nous sommes en train de vivre dans une situation qui est vraiment très difficile et ça oblige parfois la pensée à aller à des endroits où elle ne veut pas vraiment aller. J'étais en train de lire le livre, par exemple, d'Ahmad Baydoun sur l'histoire du Liban. Il a dit une chose qui m'a frappé, parce que ça a été écrit en 1987, le livre. Il a dit que on raconte nos rêves parce qu'on veut comprendre les choses qui nous entourent. Je pense que c'est une très bonne description de ce que je suis en train de voir, de sentir. Mais en même temps, c'est une description qui vient d'une personne qui est nettement plus âgée que moi. Donc je ne sais pas si c'est vraiment caractéristique de ma génération à moi, ou c'est quelque chose qui est caractéristique des personnes qui veulent adopter une position critique et radicale dans une société qui ne l'est pas.
C'était Beyrouth, une ville plus loin. Deuxième volet, fragments de ville. Avec Rassane Salab, Tony Chakar, Zico, Ziyad Alawani, Ren Mahfouz, Sharif Anwar, Hassan Daoud, Grégoire Serov, Bernard Rouri, Ziad Mahroul et Junet Saryeddin. Traduction Nanette Ritter, Mona Rayat. Voix Christian Rist. Merci à Lamia Jorej, Georges Arbid, Céline Rainala, Hachem Adnan, Salim Razaz, Ziad Nofal, Ren Mitri et l'équipe du Bar 1975. Prise de son, Didier Sudre. Mixage, Michel Kreis. Une émission d'Anne-Sophie Vergne, réalisée par Anne Fleury.
C'était Surpris par la nuit, Surpris par le monde. Première diffusion le 29 mars 2005 sur France Culture.